Françoise Robin, bonjour.
Bonjour.
Quel souvenir vous avez de votre année universitaire passée à l'ASSA ?
Ah, à l'ASSA, très dur. L'impression, vous savez, qu'ont les anciens combattants quand ils se revoient 40 ans après, de mon temps c'était difficile. On avait l'électricité, on n'avait pas de chauffage, donc il faisait 2 degrés le matin quand on se réveillait dans les chambres. On n'avait pas d'eau chaude, elle était amenée en thermos, enfin pas d'eau chaude dans la pièce. Mais il y avait une sorte de solidarité entre les étudiants qui était intéressante. On était une vingtaine d'étudiants étrangers, mais sur ces 20 étudiants, il y avait 14 missionnaires, crypto-missionnaires, qui venaient là pour déraciner le bouddhisme tibétain. Alors j'ai pas noué de très très bons contacts avec eux, mais avec les autres c'était bien. Et puis l'ASSA à cette époque était encore relativement agréable à vivre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas démoli encore toute la vieille ville. Il restait une atmosphère tibétaine en fait. Et j'ai toujours un souvenir ému de cette période. On m'envoyait du chocolat de France, on m'envoyait du shampoing de France, parce que tout ça était difficile à trouver. Et puis le contact avec les gens était beaucoup plus, disons, décontracté, même si c'était loin d'être la grande liberté par rapport à maintenant, où c'est très tendu.
C'était dans les années combien ?
En 94-95, à cheval, j'ai passé 8 mois là-bas.
Quel était le rapport des Chinois aux étudiants étrangers ?
Des Chinois ?
Oui, chinois ou tibétains.
Disons, les Chinois, on n'en voyait pas, si ce n'est dans les commerces. Mais moi, j'essayais plutôt d'aller dans les commerces tenus par des tibétains. Et puis, les tibétains aux étudiants étrangers étaient toujours incroyablement surpris qu'on s'intéresse à cette langue qui est si dénigrée, qui ne sert à rien dans la vie officielle au Tibet maintenant. C'est-à-dire que tous les formulaires sont en chinois. Si vous ne parlez pas chinois, vous n'avez pas d'emploi, même si c'est en région autonome du Tibet. Enfin, et donc nous, on arrivait comme des hurluberlus à vouloir apprendre une langue. Je fais toujours le parallèle entre un Japonais qui viendrait en France sans parler français, mais parlant breton. Voilà, un étudiant de breton. Vous voyez, c'est un peu l'image qu'on devait donner. En fait.
Oui, c'est assez surprenant, effectivement. Quelles sont les origines de la littérature tibétaine ?
Alors, la littérature tibétaine, l'écriture tibétaine a une... dans la littérature, il y a toujours la partie orale et la partie écrite. Donc, la partie orale, il y a des chants. Alors évidemment, c'est impossible de les dater. Mais on a miraculeusement retrouvé des manuscrits datant de la période 8e-10e siècle dans une grotte sur la route de la soie. Enfin, énormément de manuscrits qui ont été volés par des explorateurs français, anglais, etc., allemands, et qui sont maintenant à la Bibliothèque nationale, à la British Library, et dans d'autres endroits du monde. Et là, on trouve des poèmes qui glorifient les hauts faits de l'empereur et de ses ministres. Donc ça, c'est une composante importante. Bien évidemment, donc ça, c'est plutôt laïque. À l'époque, le bouddhisme n'était pas très présent au Tibet. Donc on a première trace, c'est à peu près à cette époque.
Quand vous dites à l'époque, c'est quand ?
8e, 10e siècle. Disons que le bouddhisme était devenu, avait été décrété religion royale ou impériale, selon qu'on considère que le Tibet était un empire ou un royaume. C'était une grande discussion. Donc en 792, mais en réalité, ça restait une affaire de cour. C'était une religion plutôt de prestige. Parce que un grand empereur ou un grand roi se doit de pratiquer une grande religion. Donc, étant plutôt favorablement incliné vers le bouddhisme, c'est ça qu'ils ont emprunté, non pas de religion chinoise, par exemple. Et puis ensuite, vous avez donc le bouddhisme, ensuite, c'est vraiment implanté à partir des 11e, 12e siècle au Tibet. Et là, il y a eu une explosion d'écrits, que ce soit des chants mystiques de réalisation par des grands yogis, qui empruntait en fait à cet ancien style, mais remanié dans un style religieux, ou avec un propos religieux, où la nature est très présente. Et puis ensuite, vous avez eu des tas de traités très arides de philosophie. Vous avez l'épopée de Guézard, qui a été traduite, dans un infime extrait, 0,01% a été traduit en français par Alexandra David-Nel. Mais en réalité, c'est une épopée. Les Tibétains sont toujours très fiers de vous annoncer qu'elle est plus longue que le Mahabharata et que c'est la plus longue épopée du monde parce qu'elle fait effectivement au moins 150 volumes. Donc personne n'a jamais fait le tour de cette épopée. Guézard est un héros guerrier qui conquiert les royaumes aux alentours les uns après les autres. Donc les Tibétains récitent cette épopée entre eux et depuis longtemps. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est que la poésie avait une place importante dans la création littéraire, qui était souvent, très souvent, principalement aux mains des religieux. Et le roman, par exemple, moi qui suis dans la littérature contemporaine, on ne trouve pas de roman et pas d'écriture laïque, si ce n'est des petits romans, des petites fables édifiantes avec des animaux, des choses comme ça, pour éduquer le peuple. Hein. On n'en trouve pas avant 1980. Donc ce qu'il faut voir avec le Tibet, c'est que c'est une civilisation qui connaît l'écriture depuis 1300 ans, enfin depuis environ le 7e siècle, et qui est la dernière du monde, je pense, à avoir produit du romanesque.
Alors justement, quelle est la différence entre la littérature tibétaine et la littérature chinoise ?
Oula, elle est immense. En réalité, une autre chose qu'il faut dire, c'est que les Tibétains n'ont quasiment rien traduit du chinois pendant ces 1300 ans. Ils se sont abreuvés seulement à la source de l'Inde. Je ne veux pas dire de bêtises, mais 1 à 2% peut-être des traductions sont faites depuis le chinois. C'est-à-dire qu'ils ont complètement snobé, ignoré ce qui se passait en Chine, ça ne les intéressait pas. Le pays idéal, c'était l'Inde, parce que c'était là où le bouddhisme avait éclos. Même s'il y avait du bouddhisme en Chine, et que c'est par le bouddhisme chinois que le bouddhisme est arrivé au Tibet, entre autres, qu'importe, ils regardaient vers le sud, en fait. Donc, la littérature chinoise a suivi sa propre évolution. Et en réalité, si vous lisez des ouvrages sur l'émergence justement de la littérature profane ou laïque, vous voyez que c'est lié à une urbanisation, à l'émergence d'une classe bourgeoise. Donc deux grands phénomènes en fait que le Tibet n'a jamais connus. Le Tibet reste très agricole. Encore maintenant, en 2007, bon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais c'est environ 90% de la population est encore rurale ou pasteur nomade. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de bourgeoisie, ou très peu. Le commerce est aux mains des Chinois principalement. Donc en fait, ce sont les genres littéraires profanes n'ont jamais éclos au Tibet avant la libération pacifique. Il y a des guillemets que vous n'entendez, que j'espère que vous entendez. Et donc, la littérature chinoise, elle s'apparente plus ou moins maintenant à notre propre littérature. Elle est beaucoup puisée à la. Si vous parlez de la littérature de type romanesque, elle s'est beaucoup inspirée de la littérature d'Occident, via le Japon d'ailleurs, dans les années. Fin du 19e et puis beaucoup les années 10, 20, 30. Mais ça, c'est quelque chose que les Tibétains n'ont pas du tout vu venir.
Quel a été l'impact de la révolution culturelle au Tibet ?
Eh bien, ça a été catastrophique, énorme. Alors, évidemment, il y a bagarre sur les chiffres. Donc, en exil, le gouvernement tibétain de Dharamsala a tenu une comptabilité qui indiquerait que 1 200 000 personnes sur 5 à 6 millions sont mortes. Et puis que 5993 ou 94 temples sur 6000 ont été détruits, puisqu'il cite toujours le chiffre de 6 temples qui restent debout sur 6000. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment vraiment la comptabilité a été faite. Il n'en demeure pas moins que, même si c'est un peu exagéré, d'abord les gens ne pouvaient plus porter l'habit traditionnel. Le Tibet, ce qu'il faut voir entre la Chine et le Tibet, la grande différence, c'est que la révolution culturelle en Chine a beaucoup fait souffrir les Chinois, c'est vrai. Mais au Tibet, premièrement, ça faisait 10 à 15 ans qu'ils souffraient parce qu'ils ne supportaient pas le changement de régime. Il y avait des rébellions, et le Dalai Lama s'est enfui bien avant la révolution culturelle. Il y avait des redressements par le travail dans les camps. C'était quasiment des camps de concentration. Alors la révolution culturelle a commencé en 66. Pour les Tibétains, il y en a qui ont été mis en prison dès 54 et qui n'ont été libérés que dans les années 80. Les derniers d'ailleurs, hein, après 3-4 ans après les Chinois. Donc qui plus est, le Tibet partait de beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il était toujours très traditionnel. Les gens étaient, mais d'une religiosité dont on a du mal à se rendre compte. Et la souffrance a été donc multipliée, disons, c'est à l'échelle de cette ferveur religieuse qui est pour nous assez, assez incroyable, en fait. Donc, bon, destruction des temples. Mais il faut imaginer, évidemment, nous, on vit dans une société non religieuse, on ne se rend pas compte. Mais pour les Tibétains, plus qu'être Tibétain, ce qui compte, c'est être bouddhiste tibétain. Et on vous demande de casser vos statues, on vous demande d'aller aux toilettes et de vous essuyer les fesses avec les livres sacrés, sur lesquels normalement on n'a même pas le droit de poser le pied. On vous demande de déceler toutes les pierres sur lesquelles sont gravés des mantras, etc. Et on vous demande de marcher dessus. Enfin, c'est une désacralisation totale, avec on humilie les grands religieux. C'est un traumatisme assez incommensurable, et je me demande même comment les gens arrivent à avoir le sourire maintenant.
Donc c'est une torture psychologique, en fait.
Complètement. Il y a eu des tortures physiques dans les prisons, privation de nourriture, bon, torture évidemment, mais surtout une dépossession totale de son destin et un leadership qui ne... Vous voyez, ce sont deux mondes complètement différents, la Chine et le Tibet. Et ils sont menés par, et sans avoir voix au chapitre, par une civilisation qui a eu certainement son heure de gloire, que je ne trouve pas très glorieuse actuellement, la Chine, pour ce qu'elle fait, mais qui, à l'époque, était dans un tourbillon de ferveur maoïste. Enfin bon, on connaît tout ça. Hein, et ça ne pouvait pas coller. C'était l'enfer sur terre pour les Tibétains.
Quel est votre critère de choix pour les œuvres à traduire ?
C'est très simple. Il ne faut pas que je m'ennuie quand je lis. Non seulement ça, mais il faut surtout que j'aime et que je sente. En fait, ça, on sent très vite. C'est comme quand on écrit un article. Si le sujet vous vient comme ça, ou alors s'il faut se torturer le ménage pour trouver quelque chose à écrire, ça ne va pas. C'est pareil pour la traduction. Si vraiment on tourne ça dans tous les sens, que ça ne tombe pas, c'est signe qu'il faudrait peut-être changer de texte. Voilà, il n'y a pas d'autres critères. Peut-être que l'an prochain, j'ai l'intention de traduire un autre livre. Là, le critère sera plus objectif à la base, c'est-à-dire que je voudrais traduire des textes d'auteurs qui sont dans la quarantaine, pour montrer que malgré toutes ces abominations, il y a encore des gens qui écrivent au Tibet. Parce que ce que j'ai traduit jusque maintenant, ce sont soit des contes anonymes, soit donc l'artiste tibétain dont l'auteur s'est suicidé à 32 ans en 1985. J'ai traduit un autre livre de cet auteur. Et le premier livre que j'ai publié aux éditions Bleu de Chine, La controverse dans le jardin aux fleurs, est écrit par quelqu'un qui a maintenant 66 ans. Donc ça n'est pas non plus la relève de la littérature, vous voyez. Donc il y en a un qui est mort et l'autre qui est bientôt septuagénaire. Donc il ne faut pas croire que c'est mort non plus. Donc voilà, mon critère va être l'âge des impétrants. Et puis ensuite, il y en a quand même une bonne vingtaine parmi lesquelles je peux choisir, et les textes qui m'intéressent le plus.
D'accord. Alors donc, l'artiste tibétain que vous venez de publier chez Bleu de Chine, c'est de Tongdrup Gyal. Je ne suis pas sûre de mon accent, mais enfin bon, c'est à peu près ça. Donc qui était ce Tongdrup Gyal?
Alors, Tongdrup Gyal était un intellectuel historien à la base, génial semble-t-il. Bon, moi je ne l'ai pas rencontré, hein, il s'est suicidé en 1985. Mais tous ses collègues et ses professeurs s'accordent à dire que c'était quelqu'un qui était... il était issu d'un milieu très pauvre, rural, non éduqué, et il avait donc 13 ans au début de la Révolution culturelle. Il n'a pas l'air d'en avoir particulièrement souffert, ceci dit, dans sa région. Et puis, il a été très vite embauché dans une radio publique parce qu'il parlait, il avait une belle voix et il se débrouillait bien en chinois, donc on lui demandait des travaux de traduction. Et puis, il a été accepté à l'université, ce qu'on appelle l'Institut central des nationalités à Pékin, qui est une université où les membres ou les représentants les plus émérites de ce que les Chinois appellent les nationalités minoritaires, où ces gens-là se rendent pour poursuivre une éducation. Et il a fait partie du premier lot d'étudiants acceptés sur concours après la Révolution culturelle. Et il était le plus brillant d'entre tous. Et il est mort à 32 ans, je l'ai déjà dit. On a publié à Pékin en 1997 ses œuvres complètes. Et elles sont quand même réunies dans 6 volumes. Je ne sais pas combien de gens, à 32 ans, peuvent avoir écrit déjà 6 volumes. Littérature, poésie, essais critiques, analyse littéraire, il était spécialiste de poésie classique, etc. etc. Donc c'était le James Dean du monde intellectuel tibétain. Il a complètement innové en littérature. C'est-à-dire qu'il a inventé le vers libre. Figurez-vous que jusqu'en 1983, il n'y avait pas de vers libre en tibétain. Tout était codifié sur des règles adoptées de l'Inde, en vigueur depuis environ 700 ans, depuis la première traduction de traités poétiques indiens en Tibet. Donc les érudits ne jurent que par ça. Alors lui, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, il a dit ça suffit, on est en 1983, il va falloir qu'on écrive un petit peu, et aussi on est tibétain, on n'est pas indien, donc on a des choses à dire qu'on ne peut pas transmettre dans ce carcan figé. Et bon, il était à Pékin à l'époque, hein, donc il a dû avoir pas mal d'influence aussi du monde chinois, où cette littérature était en éclosion. Ce qu'on appelait il y avait un mouvement qui s'appelait la poésie obscure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc c'était justement une poésie hermétique, délibérément hermétique, et ça a dû certainement le toucher. Et puis il est le premier à avoir écrit des nouvelles aussi, des nouvelles réalistes.
Alors justement, que raconte l'artiste tibétain qui a été publié en 84?
Alors, l'artiste tibétain raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est élevé par son père, veuf, dans une atmosphère de peintre. C'est une région, donc, c'est une situation qui est tout à fait véridique, enfin, qui existe en réalité. Dans cette région de ce qu'on appelle l'Amdo, donc la grande province du nord-est tibétain, qui fait deux fois la France, hein, où vivent 1 million de Tibétains, et maintenant beaucoup de Chinois. Eh bien, il y a quelques villages où on se spécialise sur la peinture de père en fils. En général, dans le monde tibétain, quand vous pensez peinture, vous pensez évidemment représentation religieuse, et les exécutants sont en général des moines, des religieux. Et pas dans cette vallée, en fait, ce sont des laïcs qui se transmettent ça de père en fils. Il peut y avoir des religieux aussi, mais il y a des laïcs. Et donc, ça raconte l'histoire de ce garçon qui hérite de la formation qui est formée par son père, mais qui décide, comme il dit, d'aller voir le monde. Et bien mal lui en prend, et il est attaqué par des brigands, comme il en existe beaucoup au Tibet, hein, c'était un métier quasiment. Et puis, ensuite, bon, il perclut de remords à l'idée d'avoir laissé son vieux père veuf, qui le gâtait tant, et il retourne dans son pays. Alors ça paraît peut-être bizarre, parce que vous dire, mais il aurait dû savoir que son père... Bon, je dévoile la fin.
Ah ben non.
Bon, il est arrivé des choses à son père, alors on dit, mais il aurait dû le savoir, enfin c'est pas possible. Non, il faut, même de nos jours encore, les gens ne communiquent pas, ils n'envoient pas vraiment de courrier, le téléphone, c'est pour les familles privilégiées. Bon, donc c'est tout à fait plausible qu'il n'ait pas entendu dire qu'il est arrivé des choses à son père. Donc il retourne chez lui pour constater les dégâts. Voilà, je n'en dis pas plus.
Est-ce qu'il y a un aspect biographique dans cet ouvrage ?
Alors, peut-être que le rapport... je ne sais, évidemment, Tun Jubgyel n'a pas laissé d'écrits autobiographiques, malheureusement, donc on ne sait pas bien pourquoi il a composé ses écrits, donc on en est réduit à des supputations. Mais on sait que Tun Jubgyel a été... les parents de Tun Jubgyel se sont séparés quand il était petit, et il n'a pas connu son père. Or là, c'est vraiment le parangon de l'amour père-fils qui est vraiment, enfin, à mon avis, hein, qui est montré dans ce livre. Donc est-ce qu'il rêve une relation à un père qu'il n'a pas connu ? Je ne sais pas.
Et bon, on va laisser la question ouverte. Quelles sont les difficultés de la langue tibétaine quand vous traduisez ? Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. C'est une langue... Bon, évidemment, très très éloigné de toutes les langues indo-européennes qu'on connaît, ça c'est comme le chinois. Une langue, c'est un peu du Proust en permanence, c'est-à-dire que vous avez des propositions qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent, et la principale est à la fin. Et peut-être que il m'est arrivé de faire une contresens, parce que je n'avais pas vu que la fin de la proposition, en réalité, mettait tout dans le domaine de l'hypothèse. Donc c'était une sorte de « et si, et si, et si », et moi je croyais que vraiment la chose se passait. Et vous voyez, il faut aller vraiment à la fin de la phrase pour savoir dans quelle modalité vous êtes. Et puis donc en français, il faut, à moins d'être Proust, que je ne suis pas, il faut savoir couper et puis décider qu'on va mettre ici un point final à cette... On a calculé avec un collègue que on a trouvé la plus longue proposition qu'on ait trouvée, c'est 49 propositions qui s'enchaînent, avec des conditionnels, avec ce qu'on appelle des concessifs, bien que, etc., etc. C'est à rallonge et c'est très agaçant pour le traducteur.
Alors, les influences, elles viennent de l'Inde plutôt, ou du chinois, ou d'ailleurs ?
Au départ, les influences sont indiennes, avec évidemment quand même un corpus tibétain, enfin la langue tibétaine, avec ces textes dont j'ai parlé au début, ces poèmes qui sont autochtones, cette épopée aussi. Là, il y a une vraie production locale, beaucoup de chants aussi. Au niveau du contenu, ce serait plutôt tibétain. Au niveau de la forme, ça a très longtemps été poésie classique indienne, ce qu'on appelle le kavya, c'est extrêmement ornementé. Je cite M. Stein, qui est un des plus grands spécialistes, et il est mort maintenant, de la civilisation tibétaine, et qui disait « Ces textes empoulés, dont le style empoulé désespère le traducteur ». J'ai beaucoup aimé, cette formule me reste, parce que c'est exactement ça. Donc, et puis, il y a maintenant, depuis les années 80, donc Tun Jubgyel, ça le concerne, il y a une forte influence de la Chine, de la littérature, et du style chinois, et même de la terminologie chinoise. Il y a des néologismes qu'on ne comprend que si on connaît le chinois.
En termes de caractère, les caractères tibétains.
À l'écriture, vous voulez dire, c'est un alphabet, il y a 30 consonnes, 4 voyelles. Et un son, comme en français, un son, vous pouvez avoir un son qui est créé par une simple lettre, comme A, puis si vous mettez un U, bizarrement, ça fait O, puis si vous mettez un E devant, ça fait toujours O. Donc en fait, en français, on ne se rend pas compte, mais on est un peu tordu aussi. Hein. Vous mettez un T à la fin, c'est toujours O, vous voyez. Eh bien, le tibétain, c'est un peu pareil, vous pouvez aller de une lettre à 7 lettres empilées qui ne finissent par ne faire qu'un son.
Eh bien, est-ce que ce genre d'ouvrage, comme l'artiste tibétain que vous avez traduit, est accessible dans toutes les langues, ou c'est une particularité française de s'intéresser au Tibet ?
Alors, s'intéresser au Tibet, ça n'est pas une particularité française. Les gens sont toujours étonnés de voir qu'il y a si peu de Tibétains sur Terre, mais aussi autant de gens qui en parlent. Hein. Ils sont 5 millions, c'est tout, mais on en parle beaucoup. Ceci dit, la littérature contemporaine tibétaine, on était 5 dans le monde, disons dans les occidentaux, hein, à s'y intéresser, à la traduire, à pouvoir la traduire. Et puis mes collègues, peu à peu, sont, je ne sais pas, ils sont fâché, mais soit désespéré, soit il passe à autre chose. Et je me retrouve quasiment toute seule maintenant à traduire de la littérature tibétaine contemporaine. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire qu'on puisse avoir ces livres, puisque l'artiste tibétain, c'est une traduction totalement inédite. La controverse dans le jardin aux fleurs, traduction totalement inédite. Il n'y a jamais eu d'autres traductions dans une autre langue. La fleur vaincue par le gel a été traduite en anglais déjà. Et là, je dois rendre hommage à mon éditeur Bleu de Chine, parce que c'est pas évident de se lancer sur un. En même temps, je trouve que ça devrait éveiller la curiosité des lecteurs de se dire, mais j'ai jamais entendu parler d'une littérature tibétaine, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tellement nouveau que soit ça laisse indifférent, soit ça fait peur. Et je trouve que parfois je me dis que les gens connaissent pas leur chance. Ils peuvent ne pas aimer, mais au moins aller voir ce que c'est. On est les seuls dans le monde à commencer à avoir un corpus qui va s'étoffer, j'espère, d'année en année, sur la littérature contemporaine tibétaine.
On a la chance de l'avoir en français.
Et en français, oui.
Alors, le Tibet, politiquement, aujourd'hui, il en est où?
Alors, le Tibet, politiquement. Donc, le Tibet est entre les mains, donc est incorporé à la République populaire de Chine depuis 1950, disons, avec un pseudo-régime d'autonomie. Puisqu'on parle de la région autonome du Tibet, mais en réalité, cette région autonome du Tibet et d'une ne couvre que 50% à peu près de la population et de la superficie du Tibet ethnique, culturel. C'est-à-dire que ça déborde bien au-delà. Il y en a dans le Sichuan, dans le Gansu, dans d'autres provinces. Et puis, l'autonomie est totalement virtuelle. En l'occurrence, aucun des grands pontes, qu'il soit du Parti communiste, parce que le Parti communiste régente tout, de toutes les institutions possibles, imaginables, vous n'avez jamais un Tibétain à la tête de ça. Vous avez toujours un Chinois, puis en dessous, vous avez un Tibétain. Parce qu'il faut qu'on est quand même en région autonome du Tibet. Mais ils sont, je n'arrive pas à trouver de meilleur adjectif que dépossédés de toute possibilité d'action sur leur destin. C'est tragique. Hein. Je ne veux pas. C'est pas parce qu'on édite de la littérature que tout va bien. Ça va très très mal et ça va de plus en plus mal en fait.
Alors est-ce que cette sinisation, elle a pour but de coloniser les Tibétains jusqu'à leur extinction?
Non, en fait, si vous regardez l'histoire de la Chine. Les Chinois, alors c'est pareil, c'est très complexe. Hein. Si vous regardez les dynasties chinoises sur les 1200-300 dernières années, la plupart du temps c'était des dynasties non chinoises, ethniquement, c'était des Mandchous, c'est-à-dire des nomades du Nord, c'était des Mongols, les Yuan, Genghis Khan, etc., qui ont tenu la Chine. Ils ont en fait plier la Chine ethnique. Mais maintenant, les Chinois s'approprient ça pour leur propre compte et disent « Regardez comme notre gloire était grande et qu'on avait les Tibétains sur notre coupe et les Mongols, etc. » Non, c'était les Mongols qui avaient les Chinois sur leur coupe. Et là, il y a un déni d'histoire qui est grave. Et ce que je veux dire par là, vous allez me dire quel rapport avec votre question, c'est que il me semble qu'il y a, comme on dit en anglais, un master plan. La Chine, c'est l'empire du milieu. En chinois, c'est l'empire du milieu. C'est-à-dire que c'est l'empire suprême qui va peu à peu coloniser les barbares. Vous savez, il y a les cuits, puis il y a les crus. Alors, nous, on est des cuits, on est des gens cultivés, civilisés, avec la civilisation chinoise, l'écriture chinoise, le confucianisme, le taoïsme, etc., etc., le culte aux ancêtres, etc. Et les barbares autour, c'est une mentalité coloniale, mais bien avant ce que nous, on appelle la colonisation. C'est nous allons pour leur plus grand bien leur apporter la vérité. Et petit à petit, ils se sont étendus et se sont étendus. Donc je ne pense pas que les Chinois veuillent anéantir les Tibétains. Tout simplement, ils trouvent que ça n'a aucun intérêt d'être Tibétain. Ce sont des barbares. Donc autant qu'ils deviennent Chinois. C'est ça qui est formidable pour eux.
Mais de même que ça n'a aucun intérêt d'être Ouïghours, par exemple.
Aucun intérêt d'être Ouïghours, surtout que les Ouïghours posent des bombes. C'est pas comme les Tibétains.
Pas tous.
Oui, pas tous, mais...
parfois, ils ne sont pas bouddhistes.
Ils ne sont pas bouddhistes. Les Mongols... Très simplement, il y a, comme pour le Tibet, ils ont créé une région autonome de Mongolie, hein, ce qu'on appelle la Mongolie intérieure pour la différencier de la Mongolie extérieure, qui, elle, a eu la chance d'être prise par l'URSS et maintenant on lui a donné son indépendance. Maintenant, c'est un vrai pays. Donc ça, en fait, c'est une chance que d'avoir été écrasé par l'URSS, en réalité. Mais en tout cas, il y a une partie, une frange de la Mongolie qui est restée sous le joug chinois. Maintenant, la proportion de population, c'était une région autonome, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 50% de Mongols à l'époque où ça a été créé. Sinon, il n'y a pas d'autonomie possible, d'une point de vue législatif. En 2007, en plus, mes statistiques datent de 2000 ou quelque chose, donc ça ne peut aller qu'en empirant. En 2007, la proportion des Mongols, c'est 15% en Mongolie intérieure. Donc, ces Mongols sont sédentarisés, ces Mongols ne parlent plus le mongol, Et ce sont, ils ont l'ail. Alors oui, ils ont des danses folkloriques très sympathiques le samedi soir à la télévision. Et c'est tout. Et donc, c'est un peu ce qu'on espère pour le Tibet. Et il faut parler. Enfin, je ne sais pas si vous allez me poser une question sur le train. Parce que
oui, justement, j'en avais une, ça tombe bien.
Allez-y.
C'était en fait comment sont perçus ces changements de passage à l'extrême modernité, notamment avec le train. Mm-hmm. Puisque vous avez dit tout à l'heure que c'était plus de 90% de ruraux. Qui voient passer ce train de la modernité, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Alors, d'abord, il faut rappeler quelques évidences. C'est pas parce que la Chine est là, ou c'est pas parce que le Tibet, effectivement, il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des... Mais il y en a partout dans le monde. C'est un phénomène de modernisation globale, donc tout n'est pas, à mettre au bénéfice de la Chine. Dans des tas d'endroits dans le monde, ils sont débrouillés très bien sans les Chinois. D'autre part, donc c'est un processus mondial. Qui plus est, le Tibet reste le plus pauvre la plus pauvre de toutes les provinces et de très loin en Chine. Donc bénéfice pour l'instant pas grand chose. Les Tibétains ne sont pas réfractaires à la modernité. Ce sont pas des gens complètement ancrés avec leurs troupeaux et leur même s'ils vivent comme ça et c'est très bien. Mais il y a aussi des urbains. Maintenant il y a des peintres et il y a des industriels en Occident. Je veux dire c'est pas génétique d'être, on n'est pas allergique à la modernité. Tout simplement, ils n'ont pas les moyens de l'appréhender puisque tout se fait en chinois, dans des réseaux qui sont à Pékin, à Shanghai, etc. Donc, ils n'ont pas l'argent. Donc, ils laissent passer complètement le train de la modernité, si je peux dire, à leur corps défendant. En réalité, ils aimeraient bien. C'est pas un souhait pour eux que de rester à la traîne. Tout simplement, la possibilité ne leur est pas donnée parce que c'est toujours le problème de dépossession. Donc, ce train, pour l'instant, comment le perçoivent-ils ? C'est pas les Tibétains qui prennent le train. C'est les Chinois qui prennent le train, et les quelques Occidentaux. Donc, ce en quoi je n'ai rien à dire, hein. Moi-même, je vais le prendre, j'espère, cet été. Je me dis que ça fera toujours une place de moins pour un Chinois. Mais ces trains apportent des tas de touristes, le tourisme est une des grandes sources d'entrée d'argent pour le Tibet, la région autonome du Tibet, donc qui modèle, le Tibet devient Disneyland, je connais énormément de gens qui vont en vacances, qui ont un voyage organisé au Tibet et qui reviennent en disant « mais c'est affreux ». C'est-à-dire que c'est un voyage de groupe organisé pour un goût à la chinoise, avec du kitsch, où on vous recrée des ballets folkloriques le soir. Pour nous, c'est presque à rire si c'était pas à pleurer, en fait. Donc c'est très bien pour le tourisme, ça apporte en ce moment, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte, Lhasa c'est une ville de, on ne sait pas, parce qu'évidemment, comme tout est flou et tout est secret, rien ne se passe bien, on n'a pas de chiffre officiel pour Lhasa, c'est quand même un comble. Mais entre 200 000 et 300 000 habitants, plus de Chinois que de Tibétains, c'est presque sûr. Tous les ans, maintenant avec le train, là on en est, je crois, à 3 millions de touristes, c'est-à-dire 10 fois le nombre d'habitants qui arrivent à Lhasa, dans un écosystème très fragile, sur lequel ils n'ont aucun pouvoir, enfin les Tibétains. Qui plus, il n'y a pas que les touristes ils repartent. Mais il y a des gens qui restent. Et quand j'étais à Lhasa en 2005, la dernière fois, il y avait une ville de 80 000 habitants qui se construisait à 15 km de Lhasa, et une autre je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était de 200 000 habitants qui se construisait aussi à quelques kilomètres de Lhasa. Vous imaginez bien que toutes ces grandes tours qui vont défigurer le paysage, mais on l'a fait ailleurs, et j'ai rien à dire là-dessus, ne vont pas être des Tibétains.